La pause ado.
L'actu
vu
par les ados.
Des chroniques.
Des musiques.
Des sons.
De l'humour.
Des débats.
Et des pubs.
Plus de sensations.
Bref, tout ce que l'actu nous inspire.
Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième émission Pause ado en direct de la MDA, qui parlera, comme vous l'aurez compris, de l'actualité du point de vue des ados. Et pour cette émission spéciale, nous sommes en compagnie de Melvin, Raph, Yann et moi-même. Pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un micro-trottoir mené par Nina et Julia afin d'avoir l'avis des Montpelliérains sur l'actualité.
Est-ce que vous suivez les actualités ?
Un petit peu. Qu'il y a sur les réseaux sociaux d'info, mais...
Un peu aussi.
Oui.
Un petit peu.
Ouais, quand même.
Et par quel moyen vous vous informez généralement ?
Moi, les réseaux sociaux et la télé, ce serait plus vers M6, on va dire.
Comme j'ai pareil, les réseaux sociaux surtout.
Franchement, pareil, les réseaux sociaux, mais ça dépend, c'est pas forcément fiable, donc le journal télévisé surtout.
J'ai un colocataire qui suit énormément les actualités et c'est lui qui m'en fait part.
Moi, la plupart du temps, c'est TikTok parce que ça va plus vite et que vu que j'ai pas télé chez moi,
ouais.
Voilà.
Réseaux sociaux et aussi sur internet, je regarde souvent et tout. Voilà.
C'est un peu les deux, un peu sur la télé, un peu sur les réseaux, je croise les sources.
Et est-ce qu'en ce moment il y a une actualité qui vous déprime ?
Et tout ce qui s'est passé avec Donald Trump, les folies et tout aux États-Unis. Oh là là, c'est horrible.
The golden age of America begins right now.
Trump au pouvoir,
là-bas. Ouais. Non, mais je suis plutôt d'accord. Trump au pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui sont pas top quand on voit les actus, d'où le fait que moi je suis pas trop pour éviter de me déprimer. Mais il faudrait.
Trump président.
Toutes, absolument toutes.
Que Elon Musk ait fait le salut nazi, oui.
Et est-ce qu'il y a une actu en ce moment qui vous déprime un peu ?
Ah, tout ce qui se passe par exemple au Congo. Les guerres de manière générale. Ce qui se passe au niveau des animaux, moi je m'intéresse beaucoup à la cause animale. La surpêche, les dauphins qui sont tous en train de mourir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et on pense pas assez aussi à tout ce qui se passe sur les océans, les mers et tout. Bon, voilà.
Moi je dirais que c'est le réchauffement climatique.
Moi c'est surtout au niveau de l'écologie, je dirais. On voit de plus en plus de choses et en même temps bah, c'est un peu déprimant, mais il faut faire des choses.
Beaucoup de choses me déplaisent. J'avoue que c'est très anxiogène en ce moment les actualités, donc un peu compliqué.
Et est-ce qu'au contraire il y a une actualité qui vous rend plutôt heureux ?
Si je me trompe pas, alors je sais pas si j'ai de bêtises, mais je crois qu'en Palestine ça s'est un petit peu calmé. Et ça, c'est hyper, hyper cool.
Les repas à 1€ pour tous les étudiants. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Ça va être la grande fiesta au Social Bar. C'est 3 jours de festival et ça va être super fun.
N'hésitez voilà. pas à venir, il y a plein d'activités, plein de trucs cool organisés.
Et est-ce que vous avez une actualité personnelle dans vos vies ?
On va faire du trampoline pour la Saint-Valentin. Je vais peut-être avoir un CDI.
Je suis de sortie ce soir et ça m'arrive pas souvent. Voilà.
Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée.
Bon, comme vous avez pu l'entendre, le micro-trottoir a été réalisé il y a plus de 3 semaines. Notamment avec la bonne nouvelle du cessez-le-feu en Palestine qui n'en est plus une. Comme quoi, ce qui était d'actualité hier peut ne plus l'être demain. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les gens ont eu du mal à nous donner une actualité positive, et nous aussi on a eu du mal à en trouver une. Et vous, qu'auriez-vous répondu à cette question ?
La pause ado,
l'actu, par les ados.
Maintenant, je vais vous faire écouter Melvin, qui va nous partager son actualité sur les jeux vidéo.
Quand j'avais 9 ans, je ne pouvais pas vivre sans les jeux vidéo. J'avais une PlayStation avec tous les jeux de guerre. Battlefield, Call of Duty, les jeux de catch. J'étais fan de catch. Et des jeux de foot. PES, FIFA. J'étais même dans le classement des meilleurs joueurs de Call of Duty. fois, je jouais à GTA et j'avais l'impression de conduire ma propre voiture. Je ne faisais pas l'émission car je préférais me balader au volant de ma voiture. Je jouais tout le temps, de 10h à 5h du matin. Je mangeais vite fait et je me mettais en colère quand je perdais. Les jeux vidéo m'ont coûté beaucoup d'argent. À acheter les nouveaux jeux, les nouvelles manettes, tout le matériel. Un jour, ma Play s'est cassée, mais je n'avais plus l'argent pour la changer. C'est ça qui m'a sauvé, obligé d'arrêter. Les mois ont passé, puis les années, et ça a été un mal pour un bien. Car au fur et à mesure, j'y ai moins pensé. Aujourd'hui, il m'arrive de jouer sur mon téléphone, mais ce n'est plus ma priorité. Game over. Je préfère même regarder les autres jouer. C'est une distraction et je connais mieux mes limites. Même si les jeux vidéo restent importants dans ma vie, ils y occupent une place différente. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est des lives sur Twitch, YouTube et TikTok.
Merci pour les bi.
Pour montrer aux autres comment je joue sur Call of Duty Mobile. J'ai déjà fait une fois pendant le Covid et j'ai ressenti de la pression et de l'adrénaline du fait d'être en direct. Et je recommencerai bien à nouveau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'équiper.
Merci Melvin pour ce partage très intéressant. Maintenant, nous allons donc accueillir notre invité qui est journaliste et avec qui on va échanger sur l'actualité. Bonjour Justine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as autorisé à te tutoyer, donc je commence par la première question. Comment présenterais-tu ton travail ?
Bonjour tout le monde, je suis hyper contente d'être là. Mon travail à la télévision locale, puisque je travaille à la télévision et que je fais des reportages. Donc je filme, j'écris, je fais du montage. Donc c'est à ça que ressemble ma journée. Je raconte les histoires en images et pour qu'il soit diffusé à la télévision. Donc sur ma journée, ça commence par une conférence de rédaction le matin. Parfois, les sujets ont été validés plusieurs jours auparavant, parfois non. On décide le matin même sur ce qu'on va faire. Je passe beaucoup de temps au téléphone pour convaincre les personnes d'être filmées, d'être interviewées, et de raconter surtout à quoi ressemblerait le reportage. Et puis ensuite, on va sur le terrain, caméra, trépied dans les mains. Et puis on va interviewer les gens, alors il faut les faire accepter la caméra, c'est un objet qui n'est pas forcément évident à faire accepter, mais en tout cas en général ça se passe bien, et puis ensuite le montage à la maison et parfois au bureau, et on diffuse tout ça le soir même, parfois on le rend sur le jour même, parfois on a plusieurs jours pour le montage, ça diffère.
Quelle est ta formation ?
Il y a de multiples formations pour arriver à être journaliste. Moi, j'ai un master en journalisme d'une école de journalisme que j'ai faite à Paris. Et avant ça, j'ai une licence de droit. Donc pour certains, c'était une vocation d'être journaliste. Donc ils savent très tôt, ce n'était pas mon cas. Je voulais être avocate et c'est une fois arrivée en droit que je n'ai pas du tout voulu faire ça. Et c'est le sport qui m'a amenée au journalisme. Donc il fallait que j'ai une licence pour intégrer les écoles sur concours. Et puis ensuite, j'ai choisi la voie du journalisme.
Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Il m'a un peu choisi plus que je l'ai choisi au départ. C'est la faculté de droit, je faisais beaucoup de sport, je pratiquais du volleyball. Et tous les jeudis, on avait des compétitions sportives. On n'avait pas cours, c'était banalisé comme période. C'était pour inciter les étudiants à pratiquer du sport. Et mon match de volleyball allait être dans le même gymnase que les joueurs de handball, les joueurs de basketball. On se rejoignait quoi qu'il arrive tôt le matin, même si notre match était à 20h. Donc on voyait les autres jouer et j'ai découvert des sacrés bons niveaux, des sacrés bons joueurs. Et je ne me doutais pas que les personnes que je croisais dans les couloirs avaient ce niveau-là ou certains étaient même en centre de formation. Donc je me suis interrogée sur pourquoi on n'est pas au courant des résultats sportifs de nos équipes à l'université, pourquoi on ne connaît pas un peu plus cette partie-là des étudiants. Et c'est un coéquipier de volleyball qui montait le média étudiant, donc je l'ai intégré. Et d'une année sur l'autre, au départ, ça a démarré pour récolter des résultats. Ensuite, c'est devenu une chronique hebdomadaire que je filmais avec un petit caméscope. Tout ça en parallèle de mes cours de droit. Et j'ai fini par plus aimer ça que travailler les cours de droit. Donc c'est comme ça que j'ai choisi cette voie. Donc j'ai plutôt aimé raconter en images les émotions. Je regardais beaucoup la télévision. Donc finalement, ça m'a appelée au fur et à mesure de mes études, plutôt que si j'ai vraiment choisi. Après, je continue de le choisir parce que j'aime ça. J'aime aller à la rencontre des gens, j'aime leur découvrir leurs histoires. J'aime aussi la construction du sujet. Au montage, on s'amuse hein, à utiliser les images, à raconter, à filmer des émotions. Il m'arrive de pleurer derrière la caméra, il m'arrive de sourire derrière la caméra. Voilà un peu pourquoi je continue de faire tout ce métier-là, qui m'a plutôt choisi lui que moi j'ai choisi.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
Ce qui me plaît le plus, c'est d'aller à la rencontre de personnes et de les rencontrer et qui m'autorisent à raconter leur histoire. Par cela, je rencontre des personnes de tous horizons, de tous milieux sociaux, de tous bords politiques. Donc pour ça, c'est une sacrée découverte et c'est ça qui est stimulant, c'est d'aller vraiment dans la rencontre des gens et d'aller sur ce terrain. Moi, j'aime prendre ma voiture, j'aime passer des heures sur un terrain, parfois avoir cette adrénaline dont j'entendais tout à l'heure avec le reportage. J'ai cette adrénaline quand j'ai une demi-heure pour pouvoir envoyer un son, une interview, une image, pour qu'il soit ensuite diffusé dans le JT. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ça me plaît d'être journaliste.
Comment choisis-tu tes sujets ?
Il y a plusieurs façons pour moi de choisir les sujets. Parfois, on reçoit beaucoup de communiqués de presse par email, ce qui nous permet d'être au courant de ce qui se passe sur le territoire. Hein. Moi, je couvre tout le département de l'Hérault. Donc ça, c'est beaucoup plus les institutionnels ou les associations qui nous contactent elles-mêmes. Je lis énormément la presse quotidienne régionale, surtout Midi Libre ici dans notre ville de Montpellier. Et puis je vais lire les différentes éditions, que ce soit celle de Sète, celle de Béziers, celle de Montpellier. Je vais vraiment regarder ce qui se passe un peu partout. Je vais aussi suivre les pages Facebook des villes, quelques groupes Facebook d'associations ou d'autres collectifs qui nous permettent d'être au courant de certaines choses. Voilà, je suis assez libre dans le choix de mes sujets. Chaque matin, c'est moi qui fais des propositions. J'ai plusieurs idées en fonction du jour qu'on est, de l'actualité qu'il y a. Parfois, on fait des liens avec l'actualité nationale. Et ensuite, on décide collectivement avec un rédacteur en chef sur quoi on part pour la journée.
Comment t'informes-tu de l'actualité avec votre travail ?
Donc, il y a deux choses. Il y a mon information personnelle pour suivre l'actualité générale nationale et le travail d'information, de veille d'information que je fais pour pouvoir avoir des idées de reportage, qui est beaucoup plus sur mon quotidien professionnel. Donc, comme je l'ai dit, c'est mes emails, c'est les pages Facebook, c'est mes confrères de la presse écrite. On regarde beaucoup, on écoute beaucoup ce que font les collègues. Et parfois il y a des actualités incontournables qu'on voit par rapport au niveau national et on se demande si localement on a cet exemple là par exemple je prends encore un exemple de sport mais le padel, donc on parle beaucoup plus dans le milieu du tennis, la région Occitanie est celle qui a le plus de licenciés, ça c'est une communication de la ligue. On va se rendre compte de ça, on va se dire allons voir un club, quel est le club qui a le plus de licenciés dans l'Hérault, on appelle la ligue. Et dans ces cas-là, on voit avec eux et c'est comme ça qu'on découvre de nouveaux sujets.
As-tu une anecdote à nous raconter sur ton métier ?
Quel type d'anecdote vous voulez ? quelle anecdote je pourrais raconter ? Il y a des moments où on est confronté à des personnes qu'on admire. Et donc c'est difficile de pas être supporter ou fan au moment où on le voit. Dans le milieu du sport, j'ai pu interviewer Zinedine Zidane, Kobe Bryant, j'ai rencontré Teddy Riner. C'est des personnes qui sont impressionnantes, qui ont beaucoup de charisme et faut pas bégayer. Et parfois, quand on est jeune journaliste et qu'on fait des conférences de presse, j'ai notamment vécu en équipe de France, quand on voit Kylian Mbappé arriver ou Raphaël Varane, on se dit je suis capable de leur poser une question. J'ai le même âge que Raphaël Varane. Je n'ai pas à avoir le stress de poser une question à ces grands champions. On y va, c'est une personne lambda. Voilà, c'est ces rencontres-là où il faut toujours faire attention à ne pas être fan et à rester journaliste. Et puis après, bah, y a les personnalités où ça ne nous fait pas plaisir, où des personnes parfois peuvent être odieuses avec nous. C'est déjà arrivé, mais tout comme parfois on a des belles rencontres et on peut pleurer avec les gens aussi.
Est-ce que tu fais que journaliste sportive ?
J'ai commencé par ça. Ensuite, je suis plutôt allée sur du journalisme donc local, de proximité, toujours à la télévision. Le Covid est passé par là. Il y a une période où il n'y avait plus de sport. Donc, je suis allée sur l'information générale et j'aime garder les deux casquettes. Ça reste mes spécialités, le sport, ce que je connais le mieux. Mais depuis 3 ans que je travaille à Montpellier, je traite tous les sujets. De différents... Là, par exemple, j'étais à l'opéra sur une répétition générale de l'opéra qui va se jouer le 8 mars. Donc, on découvre aussi des milieux qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, bah, parfois, c'est OK d'être, de ne pas connaître et d'être un peu néophyte et de leur dire, bah, voilà, je ne maîtrise pas ce qu'on fait, expliquez-moi. Et donc, je traite tous les sujets.
Maintenant, on te propose d'écouter et de réagir par la suite à la chronique de Mathieu qui nous parle de son rapport à l'actualité.
Les actualités sont déprimantes et l'espoir peut être facilement en berne avec ce qui se passe en France et dans le monde. Est-ce que ça me pousse à la résignation ? Je sais pas. L'envie d'arrêter de m'informer, peut-être. J'ai pour mon bien abandonné certaines manières de lire l'actualité, pourtant j'ai pas l'impression de moins en moins m'y intéresser. J'entends davantage ce qui se passe dans le monde par des amis ou de la satire de l'actualité, ou des analyses un peu plus longues avec des points de vue bien positionnés sur Internet. Le tout avec une distance critique indispensable à chacun. Ça donne un autre point de vue et un espoir. J'essaie du coup aussi de travailler ma manière de lire l'actualité, d'avoir du recul. Mais ce qui me déprime le plus, c'est la manière dont les grands médias continuent d'aussi mal parler de l'actualité. Ces médias sont ceux qui touchent le plus de gens, mais aussi ceux qui prétendent être les plus neutres, mais aussi les moins indépendants. D'ailleurs, la critique médiatique a une grande importance dans ma manière de lire les informations et de penser le reste en général. Mais contre ce qui peut pousser à la résignation, ma défense et ce qui deviendra mon arme, c'est de garder l'espoir, de m'aérer l'esprit, de me dématrixer de l'information, d'arrêter de penser que l'humain est uniquement ce qu'on nous montre de négatif, mais qu'il peut aussi produire de très belles choses, que l'humain est beau. J'essaie le plus possible d'être au fait de ce que j'aime et ce que je vais aimer dans la culture, c'est un bon échappatoire. Je me cherche dans mes futurs films préférés, mes futures musiques préférées, tranquillement. Mais la politique n'est pas du tout un sujet que je veux abandonner en ce moment, j'ai envie de mieux la comprendre. Quand le futur n'est pas désirable à ses 20 ans, on peut trouver dans le présent un échappatoire.
Comment on pourrait résumer ce qui vient d'être dit ? Dans mon entourage, il y a très peu de journalistes. Donc, je discute beaucoup des choix des sujets et de ce que les médias présentent à l'antenne, dans les journaux, avec eux. Et donc, j'ai constamment des regards critiques de l'extérieur. De ma jeune expérience de journaliste, les premières années, j'ai eu beaucoup cette question, pourquoi on ne parle pas de tel sujet ? Pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe en Syrie ? Pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe en Yémen ? Et j'avais posé d'ailleurs cette question-là à mes rédacteurs en chef et on m'a dit ce qu'il fait le plus d'audience à la télévision, c'est la météo. Et donc très souvent, le sujet, les premières neiges, il fait beau, c'est le printemps arrive, le soleil est de retour, bah, c'est le plus concernant pour les gens qui sont... Je pense que ces derniers jours, vous êtes peut-être sortis de Montpellier et dire « Ah, il fait beau, enfin du soleil !» Et c'est ce qui a marqué votre journée, en tout cas quand vous l'avez démarré. Donc c'est ce qui souvent attire les gens. Et on m'avait montré la courbe d'audience d'un journal télévisé. Et quand le journal était sur l'actualité internationale, il y avait la courbe chutait vraiment drastiquement parce que parfois l'actualité est trop anxiogène et donc les gens zappent. Et pourtant, la télévision que je connais le plus choisit quand même de faire ses reportages et de risquer d'avoir quelqu'un zappe sur la chaîne suivante pour quand même en parler. Évidemment, sur un sujet de télévision, on est sur 1 minute 30 à 2 minutes 30 le sujet. C'est pas sur cette durée qu'on va parler en profondeur d'une thématique. Donc il faut toujours, et je crois qu'on vous le dit peut-être à l'école, de varier ses sources d'informations. Et c'est pour ça que je pense que l'actualité de chaque pays ou de est parlée quelque part, pas forcément par un média. Il faut aller le chercher. Pourquoi nous, télévision, qui est un média plus de masse, on n'en parle pas? Bah, peut-être qu'on n'avait pas une équipe, peut-être qu'on n'avait pas l'argent pour envoyer cette équipe-là à cet endroit-là, mais peut-être que regarder ce média-là plus spécialisé, regarder ce qui se passe sur le numérique, vous allez peut-être avoir une information qui a été traitée par un autre média. Donc peut-être que ce média télé n'en a pas parlé, mais peut-être qu'un autre en a parlé, et il faut varier ses sources. Et globalement, il y a un modèle économique. Parfois, on ne peut pas être envoyé partout. Un JT dure 30 minutes, on ne parle pas tout la même journée. C'est des choix malheureusement arbitraires qui sont faits en conférence de rédaction.
Et c'est quoi tes projets d'avenir professionnellement parlant? Un rêve quoi?
Un rêve? Je suis assez chanceuse, j'ai déjà réalisé pas mal de rêves. Si je reste sur le liste de sport, les Jeux Olympiques restent un rêve à couvrir. Mais j'ai quand même réalisé pas mal de rêves, je ne saurais pas trop dire. Ce que je découvre avec l'arrivée de stagiaires, c'est que j'aime beaucoup transmettre et aider les plus jeunes à progresser. Bon, peut-être qu'à l'avenir, j'irai dans l'encadrement et peut-être devenir rédactrice en chef, mais on verra. Pour l'instant, je suis encore hyper attirée par le terrain et le reportage, donc j'y reste.
Merci à toi.
Merci à vous.
Et toi, Yann, de quoi tu vas nous parler ?
Ça vous dit quelque chose si je vous parle du pergélisol? Vous entendez, dans pergélisol, il y a gelé et sol. Et ce mot signifie en anglais permafrost.
Pourquoi tu nous parles de ça?
Dans le pergélisol, il y a des maladies inconnues et qui pourraient être plus graves que le Covid, des maladies préhistoriques. Vous imaginez, si ces maladies refont surface, on pourrait retourner en quarantaine à la maison, youpi. Il paraîtrait qu'il y ait aussi des animaux préhistoriques dans ce pergélisol. Ça, je trouve que c'est génial. Si on retrouve des animaux disparus, peut-être que les scientifiques pourraient les ramener à la vie. Ce serait fou, non?
Ok, Yann, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu nous parles de ça.
Mais si, Dina. Parce qu'avec le réchauffement climatique, le pergélisol risque de dégeler. Moi, ce sujet m'intéresse parce que ça parle à la fois de pollution, de mystère et puis surtout de notre planète qu'il faut protéger. Parce que si nous continuons à polluer comme ça, nous pourrons dire au revoir à la planète, et ça, moi, je ne suis pas d'accord.
Ah là, d'accord, je comprends mieux. Mais alors, t'es écolo ?
Ben oui, je me sens écolo, qu'on doit tout faire pour protéger notre planète et la rendre plus belle.
Ok, merci Yann. Et toi, Raph, quel est le sujet que tu veux aborder ?
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la place de la femme dans notre société. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. La femme de nos jours est très stigmatisée, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Elles sont jugées, analysées, décortiquées jusqu'à la moelle, critiquées, et ça, peu importe ce qu'elle fait. Pour comprendre ça, j'ai passé une après-midi avec mon centre de formation afin d'avoir des débats autour du sujet. Mon éducatrice nous a fait toucher du doigt qu'il y avait une journée spéciale dédiée aux droits de la femme, supposons qu'elle n'aurait aucun droit tous les autres jours. Tandis que les hommes, eux, n'ont aucune journée dédiée à leurs droits, ce qui nous montre donc l'égalité entre les deux. Mon éducatrice nous a montré par la suite un documentaire sur une afro-américaine ayant le rêve de devenir mannequin. Le problème étant qu'il y a deux handicaps pour elle, ses origines et sa couleur de peau. On découvre qu'elle a moins de chances de devenir mannequin à cause de ses origines, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus alarmée. Ce qui m'a le plus choquée, c'est de voir que c'est un homme qui décide de l'image de la femme et de son corps. Et je pense que c'est une preuve, en plus, de la considération des hommes envers les femmes dans notre société actuelle. On s'est battu pour avoir quelques droits, et vu la situation actuelle, il faut redoubler de force et continuer à se battre pour faire respecter nos droits.
Une réaction, Justine ?
C'est intéressant. Non, c'est vrai. Non, c'est très intéressant. Effectivement, notamment, tu l'as très bien dit, journée des droits de la femme, pas journée de la femme. C'est quelque chose qu'on répète très souvent et pourtant ça prend plus de place sur un synthé en télévision. Mais on fait le choix de le faire. Je ne sais pas, j'aurais peut-être une question à te poser. Je ne sais pas quel âge tu as, mais comment toi tu vis, tu vis ça?
C'est un peu... C'est un peu compliqué quand même de se dire que genre tu sors dans la rue, tu peux être regardé mal, ou il y a quelqu'un qui peut juste te demander ton numéro de téléphone, etc. Et toi, tu veux juste continuer ta vie normalement, quoi. Et c'est un truc qui est un peu genre au-dessus de... J'ai du mal à comprendre parce que, enfin, est-ce qu'on a déjà vu une femme aborder... Enfin, ça doit exister, je dis pas, mais est-ce qu'on a vraiment vu une femme regarder mal un homme dans la rue, l'insulter sur, par exemple, ce qu'il porte, etc. Alors que, enfin, genre, je trouve qu'il y a trop de... On prend trop de liberté par rapport aux femmes qu'on devrait en prendre à la base.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études réalisées. Globalement, ce chiffre, il est assez éloquent. Et quand on en parle, notamment entre femmes, on n'est pas étonné. Mais 100% des femmes ont déjà subi du harcèlement de rue, que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue. Donc c'est quand même un fléau. Il existe maintenant des outils, hein, c'est comme on commence à en parler. Mais effectivement, il y a tout un travail au niveau de l'éducation des générations à apporter. À Montpellier, il y a un dispositif, hein, je crois que son nom c'est Angela, ce serait à vérifier, mais où on peut aller se réfugier dans les commerces si jamais il se passe quoi que ce soit. Ça va dans le bon sens, effectivement. Maintenant, la sécurité des femmes dans la rue, c'est un vrai sujet.
Merci Raph pour ton texte. Ça me fait donc penser aussi qu'on a fait une émission sur le féminisme du 8 mars dernier. Vous pourrez l'écouter sur le site de la MDA. C'est une fin d'émission. Merci à tous. Merci à Jean-Jacques à la technique, à Justine ici présente et à Célia de Wakaji. Et on se dit à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.